4. Égaliser les conditions de production. On dit, mais pour n'être pas accusé de mettre des sophismes dans la bouche des protectionnistes, je laisse parler l'un de leurs plus vigoureux athlètes. On a pensé que la protection devait être chez nous simplement la représentation de la différence qui existe entre le prix de revient d'une denrée que nous produisons et le prix de revient de la denrée similaire produite chez nos voisins. Un droit protecteur, calculé sur ces bases, ne fait qu'assurer la libre concurrence. La libre concurrence n'existe que lorsqu'il y a égalité de conditions et de charges. Lorsqu'il s'agit d'une course de chevaux, on pèse le fardeau que doit supporter chacun des coureurs et on égalise les conditions. Sans cela, ce ne sont plus des concurrents. Quand il s'agit de commerce, si l'un des vendeurs peut livrer à meilleur marché, il cesse d'être concurrent et devient monopoleur. Supprimer cette protection représentative de la différence dans le prix de revient, dès lors l'étranger envahit votre marché et le monopole lui est acquis. Chacun doit vouloir pour lui comme pour les autres que la production du pays soit protégée contre la concurrence étrangère, toutes les fois que celle-ci pourrait fournir les produits à plus bas prix. Cet argument revient sans cesse dans les écrits de l'école protectionniste. Je me propose de l'examiner avec soin, c'est-à-dire que je réclame l'attention et même la patience du lecteur. Je m'occuperai d'abord des inégalités qui tiennent à la nature, ensuite de celles qui se rattachent à la diversité des taxes. Ici, comme ailleurs, nous retrouvons les théoriciens de la protection placés au point de vue du producteur, tandis que nous prenons en main la cause de ces malheureux consommateurs dont ils ne veulent absolument pas tenir compte. Il compare le champ de l'industrie au turf. Mais au turf, la course est tout à la fois moyen et but. Le public ne prend aucun intérêt à la lutte en dehors de la lutte elle-même. Quand vous lancez vos chevaux dans l'unique but de savoir quel est le meilleur coureur, je conçois que vous égalisiez les fardeaux. Mais si vous aviez pour but de faire parvenir au poteau une nouvelle importante et pressée, pourriez-vous, sans inconséquence, créer des obstacles à celui qui vous offrirait les meilleures conditions de vitesse? C'est pourtant là ce que vous faites en industrie. Vous oubliez son résultat cherché, qui est le bien-être. Vous en faites abstraction. Vous le sacrifiez même par une véritable pétition de principe. Mais puisque nous ne pouvons amener nos adversaires à notre point de vue, plaçons-nous au leur et examinons la question sous le rapport de la production. Je chercherai à établir 1. Que niveler les conditions du travail, c'est attaquer l'échange dans son principe. 2. Qu'il n'est pas vrai que le travail d'un pays soit étouffé par la concurrence des contrées plus favorisées. 3. Que cela fût-il exact, les droits protecteurs n'égalisent pas les conditions de production. 4. Que la liberté nivelle ces conditions autant qu'elles peuvent l'être. 5. Enfin, que ce sont les pays les moins favorisés qui gagnent le plus dans les échanges. 1. Niveler les conditions du travail, ce n'est pas seulement gêner quelques échanges, c'est attaquer l'échange dans son principe, car il est fondé précisément sur cette diversité, ou si l'on l'aime mieux, sur ces inégalités de fertilité, d'aptitude, de climat, de température que vous voulez effacer. Si la Guyenne envoie des vins à la Bretagne et la Bretagne des blés à la Guyenne, c'est que ces deux provinces sont placées dans des conditions différentes de production. Y a-t-il une autre loi pour les échanges internationaux? Encore une fois, se prévaloir contre eux des inégalités de conditions qui les provoquent et les expliquent, c'est les attaquer dans leur raison d'être. Si les protectionnistes avaient pour eux assez de logique et de puissance, ils réduiraient les hommes, comme des colimaçons, à l'isolement absolu. Il n'y a pas, du reste, un de leurs sophismes qui, soumis à l'épreuve de déduction rigoureuse, n'aboutissent à la destruction et au néant. 2. Il n'est pas vrai, en fait, que l'inégalité des conditions entre deux industries similaires entraîne nécessairement la chute de celle qui est la moins bien partagée. Au turf, si un des coursiers gagne le prix, l'autre le perd. Mais quand deux chevaux travaillent à produire des utilités, chacun en produit dans la mesure de ses forces, et de ce que le plus vigoureux rend plus de services, il ne s'ensuit pas que le plus faible n'en rend pas du tout. On cultive du froment dans tous les départements de la France, quoi qu'il y ait entre eux, d'énormes différences de fertilité. Et si par hasard il en est un qui n'en cultive pas, c'est qu'il n'est pas bon, même pour lui qui l'en cultive. De même, l'analogie nous dit que sous le régime de la liberté, malgré de semblables différences, on produirait du froment dans tous les royaumes de l'Europe. Et s'il en était un qui vint à renoncer à cette culture, c'est que dans son intérêt, il trouverait à faire un meilleur emploi de ses terres, de ses capitaux et de sa main-d'œuvre. Et pourquoi la fertilité d'un département ne paralyse-t-elle pas l'agriculteur du département voisin moins favorisé? Parce que les phénomènes économiques ont une souplesse, une élasticité, et pour ainsi dire des ressources de nivellement qui paraissent échapper entièrement à l'école protectionniste. Elle nous accuse d'être systématique, mais c'est elle qui est systématique au suprême degré, si l'esprit de système consiste à échafauder des raisonnements sur un fait et non sur l'ensemble des faits. Dans l'exemple ci-dessus, c'est la différence dans la valeur des terres qui compense la différence de leur fertilité. Votre champ produit 3 fois plus que le mien, oui, mais il vous a coûté 10 fois davantage, et je puis encore lutter avec vous. Voilà tout le mystère. Et remarquez que la supériorité, sous quelques rapports, amène l'infériorité à d'autres égards. C'est précisément parce que votre sol est plus fécond qu'il est plus cher, en sorte que ce n'est pas accidentellement, mais nécessairement que l'équilibre s'établit ou tend à s'établir. Et peut-on nier que la liberté ne soit le régime qui favorise le plus cette tendance? J'ai cité une branche d'agriculture. J'aurais pu aussi bien citer une branche d'industrie. Il y a des tailleurs à Quimper, et cela n'empêche pas qu'il n'y en ait à Paris. Quoique ceux-ci payent bien autrement cher leur loyer, leur ameublement, leurs ouvriers et leur nourriture. Mais aussi, ils ont une bien autre clientèle, et cela suffit non seulement pour rétablir la balance, mais encore pour la faire pencher de leur côté. Lors donc qu'on parle d'égaliser des conditions du travail, il faudrait au moins examiner si la liberté ne fait pas ce qu'on demande à l'arbitraire. Ce nivellement naturel des phénomènes économiques est si important dans la question et en même temps si propre à nous faire admirer la sagesse providentielle qui préside au gouvernement égalitaire de la société que je demande la permission de m'y arrêter un instant. Messieurs les protectionnistes, vous dites « Tel peuple a sur nous l'avantage du bon marché, de la houille, du fer, des machines, des capitaux. Nous ne pouvons lutter avec lui. » Cette proposition sera examinée sous d'autres aspects. Quant à présent, je me renferme dans la question qui est de savoir si, quand une supériorité et une infériorité sont en présence, elles ne portent pas en elles-mêmes celle-ci la force ascendante, celle-là la force descendante qui doivent les ramener à un juste équilibre. Voilà 2 pays, A et B. A possède sur B toutes sortes d'avantages. Vous en concluez que le travail se concentre en A et que B est dans l'impuissance de rien faire. A, dites-vous, vend beaucoup plus qu'il n'achète. B achète beaucoup plus qu'il ne vend. Je pourrais contester, mais je me place sur votre terrain. Dans l'hypothèse, le travail est très demandé en A, et bientôt, il y renchérit. Le fer, la houille, les terres, les aliments, les capitaux sont très demandés en A, et bientôt, ils y renchérissent. Pendant ce temps-là, travail, fer, houille, terre, aliments, capitaux, tout est très délaissé en B, et bientôt, tout y baisse de prix. Ce n'est pas tout. A vendant toujours, B achetant sans cesse, le numéraire passe de B en A. Il abonde en A, il est rare en B. Mais abondance de numéraire, cela veut dire qu'il en faut beaucoup pour acheter toute autre chose. Donc en A, à la cherté réelle qui provient d'une demande très active, s'ajoute une cherté nominale due à la surproportion des métaux précieux. Rareté de numéraire, cela signifie qu'il en faut peu pour chaque emplette. Donc en B, un bon marché nominal vient se combiner avec le bon marché réel. Dans ces circonstances, l'industrie aura toutes sortes de motifs. Des motifs, si je puis le dire, portés à la 4e puissance pour déserter A et venir s'établir en B. Ou pour rentrer dans la vérité, disons qu'elle n'aura pas attendu ce moment, que les brusques déplacements répugnent à sa nature, et que dès l'origine, sous un régime libre, elle se sera progressivement partagée et distribuée en A et B, selon les lois de l'offre et la demande, c'est-à-dire selon les lois de la justice et de l'utilité. Et quand je dis que s'il était possible que l'industrie se concentrât sur un point, il surgirait dans son propre sein et par cela même une force irrésistible de décentralisation, je ne fais pas une vaine hypothèse. Écoutons ce que disait un manufacturier à la Chambre de commerce de Manchester. Je supprime les chiffres dont il appuyait sa démonstration. Autrefois, nous exportions des étoffes. Puis cette exportation a fait place à celle des fils, qui sont la matière première des étoffes. Ensuite à celle des machines, qui sont les instruments de production du fil. Plus tard, à celle des capitaux avec lesquels nous construisons nos machines. Et enfin, à celle de nos ouvriers et de notre génie industriel, qui sont la source de nos capitaux. Tous ces instruments de travail ont été les uns après les autres s'exercer là où ils trouvaient à le faire avec plus d'avantages, là où l'existence est moins chère, la vie plus facile. Et l'on peut voir aujourd'hui en Prusse, en Autriche, en Saxe, en Suisse, en Italie, d'immenses manufactures fondées avec des capitaux anglais, servies par des ouvriers anglais et dirigées par des ingénieurs anglais. Vous voyez bien que la nature, ou plutôt la providence, plus ingénieuse, plus sage, plus prévoyante que ne le supposent vos étroites et rigides théories, n'a pas voulu cette concentration de travail, ce monopole de toutes les supériorités dont vous arguez comme d'un fait absolu et irrémédiable. Elle a pourvu, par des moyens aussi simples qu'infaillibles, à ce qu'il y eût dispersion, diffusion, solidarité, progrès simultané, toute chose que vos lois restrictives paralysent autant qu'il est en elles, car leur tendance, en isolant les peuples, est de rendre la diversité de leurs conditions beaucoup plus tranchée, de prévenir le nivellement, d'empêcher la fusion, de neutraliser les contrepoids et de parquer les peuples dans leur supériorité ou leur infériorité respective. 3. En troisième lieu, dire que par un droit protecteur on égalise les conditions de production, c'est donner une locution fausse pour véhicule à une erreur. Il n'est pas vrai qu'un droit d'entrée égalise les conditions de production. Celles-ci restent après le droit ce qu'elles étaient avant. Ce que le droit égalise tout au plus, ce sont les conditions de la vente. On dira peut-être que je joue sur les mots, mais je renvoie l'accusation à mes adversaires. C'est à eux de prouver que production et vente sont synonymes, sans quoi je suis fondé à leur reprocher, sinon de jouer sur les termes, du moins de les confondre. Qu'il me soit permis d'éclairer ma pensée par un exemple. Je suppose qu'ils viennent à l'idée de quelques spéculateurs parisiens de se livrer à la production des oranges. Ils savent que les oranges de Portugal peuvent se vendre à Paris 10 centimes, tandis que, à raison des caisses, des serres qui leur seront nécessaires à cause du froid, qui contrariera souvent leur culture, ne pourront pas exiger moins d'un franc comme prix rémunérateur. Ils demandent que les oranges de Portugal soient frappées d'un droit de 90 centimes. Moyennant ce droit, les conditions de production, disent-ils, seront égalisées. Et la Chambre, cédant, comme toujours, à ce raisonnement, inscrit sur le tarif un droit de 90 centimes par orange étrangère. Eh bien, je dis que les conditions de production ne sont nullement changées. La loi n'a rien ôté à la chaleur du soleil de Lisbonne, ni à la fréquence ou à l'intensité des gelées de Paris. La maturité des oranges continuera à se faire naturellement sur les rives du Tage et artificiellement sur les rives de la Seine. C'est-à-dire qu'elle exigera beaucoup plus de travail humain dans un pays que dans l'autre. Ce qui sera égalisé, ce sont les conditions de la vente. Les Portugais devront nous vendre leurs oranges à 1 franc, dont 90 centimes pour acquitter la taxe. Elle sera payée évidemment par le consommateur français. Et voyez la bizarrerie du résultat. Sur chaque orange portugaise consommée, le pays ne perdra rien. Car les 90 centimes payés en plus par le consommateur entreront au trésor. Il y aura déplacement. Il n'y aura pas perte. Mais sur chaque orange française consommée, il y aura 90 centimes de perte, ou à peu près, car l'acheteur les perdra bien certainement, et le vendeur, bien certainement aussi, ne les gagnera pas, puisque dans l'hypothèse même, il n'en aura tiré que le prix de revient. Je laisse aux protectionnistes le soin d'enregistrer la conclusion. 4. Si j'ai insisté sur cette distinction entre les conditions de production et les conditions de vente, distinction que messieurs les prohibitionnistes trouveront sans doute paradoxale, c'est qu'elle doit m'amener à les affliger encore d'un autre paradoxe bien plus étrange, et c'est celui-ci. Voulez-vous égaliser réellement les conditions de production? Laissez l'échange libre. Oh, pour le coup, dira-t-on, c'est trop fort et c'est abuser des jeux d'esprit. Eh bien, ne fût-ce que par curiosité, je prie messieurs les protectionnistes de suivre jusqu'au bout mon argumentation. Ce ne sera pas long. Je reprends mon exemple. Si l'on consent à supposer pour un moment que le profit moyen et quotidien de chaque Français est de 1 franc, il s'ensuivra incontestablement que pour produire directement une orange en France, il faudra une journée de travail ou l'équivalent, tandis que pour produire la compte-valeur d'une orange portugaise, il ne faudra qu'un dixième de cette journée, ce qui ne veut dire autre chose si ce n'est que le soleil fait à Lisbonne ce que le travail fait à Paris. Or, n'est-il pas évident que si je puis produire une orange, ou ce qui revient au même, de quoi l'acheter, avec un dixième de journée de travail, je suis placé, relativement à cette production, exactement dans les mêmes conditions que le producteur portugais lui-même, sauf le transport, qui doit être à ma charge. Il est donc certain que la liberté égalise les conditions de production directes ou indirectes, autant qu'elles peuvent être égalisées, puisqu'elles ne laissent plus subsister qu'une différence inévitable, celle du transport. J'ajoute que la liberté égalise aussi les conditions de jouissance, de satisfaction, de consommation, ce dont on ne s'occupe jamais, et ce qui est pourtant l'essentiel, puisqu'en définitive, la consommation est le but final de tous nos efforts industriels. Grâce à l'échange libre, nous jouirions du soleil portugais comme le Portugal lui-même. Les habitants du Havre auraient à leur portée, tout aussi bien que ceux de Londres, et aux mêmes conditions, les avantages que la nature a conférés à Newcastle sous le rapport minéralogique. 5. Messieurs les protectionnistes, vous me trouvez en humeur paradoxale. Eh bien, je veux aller plus loin encore. Je dis, et je le pense très sincèrement, que si deux pays se trouvent placés dans des conditions de production inégales, c'est celui des deux qui est le moins favorisé de la nature, qui a le plus à gagner à la liberté des échanges. Pour le prouver, je devrais m'écarter un peu de la forme qui convient à cet écrit. Je le ferai néanmoins d'abord parce que toute la question est là, ensuite parce que cela me fournira l'occasion d'exposer une loi économique de la plus haute importance et qui, bien comprise, me semble destinée à ramener à la science toutes ces sectes qui, de nos jours, cherchent dans le pays des chimères cette harmonie sociale qu'elles n'ont pu découvrir dans la nature. Je veux parler de la loi de la consommation que l'on pourrait peut-être reprocher à la plupart des économistes d'avoir beaucoup trop négligée. La consommation est la fin, la cause finale de tous les phénomènes économiques. Et c'est en elle, par conséquent, que se trouve leur dernière et définitive solution. Rien de favorable ou de défavorable ne peut s'arrêter d'une manière permanente au producteur. Les avantages que la nature et la société lui prodiguent, les inconvénients dont elle le frappe, glissent sur lui, pour ainsi dire, et tendent insensiblement à aller s'absorber et se fondre dans la communauté considérée au point de vue de la consommation. C'est là une loi admirable dans sa cause et dans ses effets, et celui qui parviendrait à la bien décrire aurait, je crois, le droit de dire « Je n'ai pas passé sur cette terre sans payer mon tribut à la société. » Toute circonstance qui favorise l'œuvre de la production est accueillie avec joie par le producteur, car l'effet immédiat et de le mettre à même de rendre plus de services à la communauté et d'en exiger une plus grande rémunération. Toute circonstance qui contrarie la production est accueillie avec peine par le producteur, car l'effet immédiat est de limiter ses services et par suite sa rémunération. Il fallait que les biens et les maux immédiats des circonstances heureuses ou funestes fussent le lot du producteur, afin qu'il fût invinciblement porté à rechercher les unes et à fuir les autres. De même, Quand un travailleur parvient à perfectionner son industrie, le bénéfice immédiat du perfectionnement est recueilli par lui. Cela a été nécessaire pour le déterminer à un travail intelligent. Cela a été juste, parce qu'il est juste qu'un effort couronné de succès apporte avec lui sa récompense. Mais je dis que ces effets, bons et mauvais, quoique permanents en eux-mêmes, ne le sont pas quant au producteur. S'il en eût été ainsi, un principe d'inégalité progressive et partant infini eût été introduit parmi les hommes. Et c'est pourquoi ces biens et ces maux vont bientôt s'absorber dans les destinées générales de l'humanité. Comment cela se perd-il? Je le ferai comprendre par quelques exemples. Transportons-nous au XIIIe siècle. Les hommes qui se livrent à l'art de copier reçoivent pour le service qu'ils rendent une rémunération gouvernée par le taux général des profits. Parmi eux, il s'en rencontre un qui cherche et trouve le moyen de multiplier rapidement les exemplaires d'un même écrit. Il invente l'imprimerie. D'abord, c'est un homme qui s'enrichit et beaucoup d'autres qui s'appauvrissent. À ce premier aperçu, quelque merveilleuse que soit la découverte, on hésite à décider si elle n'est pas plus funeste qu'utile. Il semble qu'elle introduit dans le monde, ainsi que je l'ai dit, un élément d'inégalité indéfini. Gutenberg fait des profits avec son invention et étend son invention avec ses profits, et cela sans terme, jusqu'à ce qu'il ait ruiné tous les copistes. Quant au public, au consommateur, il gagne peu, car Gutenberg a soin de ne baisser le prix de ses livres que tout juste ce qu'il faut pour sous-vendre ses rivaux. Mais la pensée qui mit l'harmonie dans le mouvement des corps célestes a su la mettre aussi dans le mécanisme interne de la société. Nous allons voir les avantages économiques de l'invention échapper à l'individualité et devenir pour toujours le patrimoine commun des masses. En effet, le procédé finit par être connu. Gutenberg n'est plus le seul à imprimer. D'autres personnes l'imitent. Leurs profits sont d'abord considérables. Elles sont récompensées pour être entrées les premières dans la voie de l'imitation, et cela était encore nécessaire, afin qu'elles y fussent attirées et qu'elles concourussent au grand résultat définitif vers lequel nous approchons. Elles gagnent beaucoup, mais elles gagnent moins que l'inventeur, car la concurrence vient de commencer son œuvre. Le prix des livres va toujours baissant. Les bénéfices des imitateurs diminuent à mesure qu'on s'éloigne du jour de l'invention, c'est-à-dire à mesure que l'imitation devient moins méritoire. Bientôt, la nouvelle industrie arrive à son état normal. En d'autres termes, la rémunération des imprimeurs n'a plus rien d'exceptionnel, et comme autrefois celle des scribes, elle n'est plus gouvernée que par le taux général des profits. Voilà donc la production en tant que telle replacée comme au point de départ. Cependant, l'invention n'en est pas moins acquise. L'épargne du temps, du travail, de l'effort pour un résultat donné, pour un nombre déterminé d'exemplaires, n'en est pas moins réalisée. Mais comment se manifeste-t-elle? Par le bon marché des livres. Et au profit de qui? Au profit du consommateur, de la société, de l'humanité. Les imprimeurs qui désormais n'ont plus aucun mérite exceptionnel ne reçoivent pas non plus désormais une rémunération exceptionnelle. Comme hommes, comme consommateurs, ils sont sans doute participants des avantages que l'invention a conférés à la communauté, mais voilà tout. En tant qu'imprimeurs, en tant que producteurs, ils sont rentrés dans les conditions ordinaires de tous les producteurs du pays. La société les paye pour leur travail, et non pour l'utilité de l'invention. Celle-ci est devenue l'héritage commun et gratuit de l'humanité entière. J'avoue que la sagesse et la beauté de ces lois me frappent d'admiration et de respect. J'y vois le saint-simonisme. À chacun selon sa capacité, à chaque capacité selon ses œuvres. J'y vois le communisme, c'est-à-dire la tendance des biens à devenir le commun héritage des hommes. Mais un saint-simonisme, un communisme réglé par la prévoyance infinie, et non point abandonné à la fragilité, aux passions et à l'arbitraire des hommes. Ce que j'ai dit de l'imprimerie On peut le dire de tous les instruments de travail, depuis le clou et le marteau jusqu'à la locomotive et au télégraphe électrique. La société jouit de tous par l'abondance de ses consommations et elle en jouit gratuitement, car leur effet est de diminuer le prix des objets. Et toute cette partie du prix qui a été anéantie, laquelle représente bien l'œuvre de l'invention dans la production, rend évidemment le produit gratuit dans cette mesure. Il ne reste à payer que le travail humain, le travail actuel, et il se paie, abstraction faite du résultat dû à l'invention, du moins quand elle a parcouru le cycle que je viens de décrire, et qu'il est dans sa destinée de parcourir. J'appelle chez moi un ouvrier, il arrive avec une scie, je lui paie sa journée à 2 francs, et il me fait 25 planches. Si la scie n'eût pas été inventée, il n'en aurait peut-être pas fait une, et je ne lui aurais pas moins payé sa journée. L'utilité produite par la scie est donc pour moi un don gratuit de la nature, ou plutôt c'est une portion de l'héritage que j'ai reçu en commun avec tous mes frères, de l'intelligence de nos ancêtres. J'ai 2 ouvriers dans mon champ, l'un tient les manches d'une charrue, l'autre le manche d'une bêche. Le résultat de leur travail est bien différent, mais le prix de la journée est le même, parce que la rémunération ne se proportionne pas à l'utilité produite, mais à l'effort, au travail exigé. J'invoque la patience du lecteur et je le prie de croire que je n'ai pas perdu de vue la liberté commerciale. Qu'il veuille bien seulement se rappeler la conclusion à laquelle je suis arrivé. La rémunération ne se proportionne pas aux utilités que le producteur porte sur le marché, mais à son travail. J'ai pris mes exemples dans les inventions humaines. Parlons maintenant des avantages naturels. Dans tout produit, la nature et l'homme concourent, mais la part d'utilité qui met la nature est toujours gratuite. Il n'y a que cette portion d'utilité qui est due au travail humain qui fait l'objet de l'échange et par conséquent de la rémunération. Celle-ci varie sans doute beaucoup à raison de l'intensité du travail, de son habileté, de sa promptitude, de son à-propos, du besoin qu'on en a, de l'absence momentanée de rivalité, etc. Mais il n'en est pas moins vrai, en principe, que le concours des lois naturelles appartenant à tous n'entre pour rien dans le prix du produit. Nous ne payons pas l'air respirable, quoi qu'il nous soit si utile, que sans lui, nous ne saurions vivre 2 minutes. Nous ne le payons pas néanmoins parce que la nature nous le fournit sans l'intervention d'aucun travail humain, que si nous voulons séparer un des gaz qui le compose, par exemple pour faire une expérience, il faut nous donner une peine ou si nous la faisons prendre à un autre, il faut lui sacrifier une peine équivalente que nous aurons mise dans un autre produit, par où l'on voit que l'échange s'opère entre des peines, des efforts, des travaux. Ce n'est véritablement pas le gaz oxygène que je paye, puisqu'il est partout à ma disposition, mais le travail qu'il a fallu accomplir pour le dégager, travail qui m'a été épargné et qu'il faut bien que je restitue. Dira-t-on qu'il y a autre chose à payer, des dépenses, des matériaux, des appareils? Mais encore dans ces choses, c'est du travail que je paye. Le prix de la houille employée représente le travail qu'il a fallu faire pour l'extraire et la transporter. Nous ne payons pas la lumière du soleil parce que la nature nous la prodigue, mais nous payons celle du gaz, du suif, de l'huile, de la cire, parce qu'il y a ici un travail humain à rémunérer. Et remarquez que c'est si bien au travail et non à l'utilité que la rémunération se proportionne, qu'il peut fort bien arriver qu'un de ces éclairages, quoique beaucoup plus intense qu'un autre, coûte cependant moins cher. Il suffit pour cela que la même quantité de travail humain en fournisse davantage. Quand le porteur d'eau vient approvisionner ma maison, si je le payais à raison de l'utilité absolue de l'eau, ma fortune n'y suffirait pas. Mais je le paye à raison de la peine qu'il a prise. S'il exigeait davantage, d'autres la prendraient, et en définitive, au besoin, je la prendrais moi-même. L'eau n'est vraiment pas la matière de notre marché, mais bien le travail fait à l'occasion de l'eau. Ce point de vue est si important, et les conséquences que j'en vais tirer si lumineuses, quant à la liberté des échanges internationaux, que je crois devoir élucider encore ma pensée par d'autres exemples. La quantité de substances alimentaires contenues dans les pommes de terre ne nous coûte pas fort cher parce qu'on en obtient beaucoup avec peu de travail. Nous payons davantage le froment parce que pour le produire, la nature exige une plus grande somme de travail humain. Il est évident que si la nature faisait pour celui-ci ce qu'elle fait pour celle-là, les prix tendraient à se niveler. Il n'est pas possible que le producteur de froment gagne d'une manière permanente beaucoup plus que le producteur de pommes de terre. La loi de la concurrence s'y oppose. Si par un heureux miracle la fertilité de toutes les terres arables venait à s'accroître, ce n'est point l'agriculteur mais le consommateur qui recueillerait l'avantage de ce phénomène. Car il se résoudrait en abondance, en bon marché. Il y aurait moins de travail incorporé dans chaque hectolitre de blé, et l'agriculteur ne pourrait l'échanger que contre un moindre travail incorporé dans tout autre produit. Si au contraire la fécondité du sol venait tout à coup à diminuer, la part de la nature dans la production serait moindre, celle du travail plus grande et le produit plus cher. C'est donc en raison de dire que c'est dans la consommation, dans l'humanité, que viennent se résoudre à la longue tous les phénomènes économiques. Tant qu'on n'a pas suivi leurs effets jusqu'à là, tant qu'on s'arrête aux effets immédiats, à ce qui affecte un homme ou une classe d'hommes en tant que producteur, on n'est pas économiste. Pas plus que celui-là n'est médecin qui, au lieu de suivre dans tout l'organisme les effets d'un breuvage, se bornerait à observer, pour le juger, comment il affecte le palais ou le gosier. Les régions tropicales sont très favorisées pour la production du sucre, du café. Cela veut dire que la nature fait la plus grande partie de la besogne et laisse peu à faire au travail. Mais alors, qui recueille les avantages de cette libéralité de la nature ? Ce ne sont point ces régions, car la concurrence les amène à ne recevoir que la rémunération du travail. Mais c'est l'humanité, car le résultat de cette libéralité s'appelle bon marché. Et le bon marché appartient à tout le monde. Voici une zone tempérée où la houille, le minerai de fer sont à la surface du sol. Il ne faut que se baisser pour en prendre. D'abord, les habitants profiteront de cette heureuse circonstance, je le veux bien. Mais bientôt, la concurrence s'en mêlant, le prix de la houille et du fer baissera jusqu'à ce que le don de la nature soit gratuitement acquis à tous, et que le travail humain soit seul rémunéré, selon le taux général des profits. Ainsi, les libéralités de la nature, comme les perfectionnements acquis dans les procédés de la production, sont ou tendent sans cesse à devenir, sous la loi de la concurrence, le patrimoine commun et gratuit des consommateurs, des masses de l'humanité. Donc les pays qui ne possèdent pas ces avantages ont tout à gagner à échanger avec ceux qui les possèdent, parce que l'échange s'accomplit entre travaux, abstraction faite des utilités naturelles que ces travaux renferment. Et ce sont évidemment les pays les plus favorisés qui ont incorporé dans un travail donné le plus de ces utilités naturelles. Leurs produits représentant moins de travail sont moins rétribués. En d'autres termes, ils sont à meilleur marché, et si toute la libéralité de la nature se résout en bon marché, évidemment ce n'est pas le pays producteur mais le pays consommateur qui en recueille le bienfait. Par où l'on voit l'énorme absurdité de ce pays consommateur s'il repousse le produit précisément parce qu'il est à bon marché. C'est comme s'il disait « Je ne veux rien de ce que la nature donne. Vous me demandez un effort égal à 2 pour me donner un produit que je ne puis créer qu'avec une peine égale à 4. Vous pouvez le faire parce que chez vous, la nature a fait la moitié de l'œuvre. Eh bien, moi, je le repousse et j'attendrai que votre climat, devenu plus inclément, vous force à me demander une peine égale à 4 afin de traiter avec vous sur le pied de l'égalité. A est un pays favorisé, B est un pays maltraité de la nature. Je dis que l'échange est avantageux à tous deux, mais surtout à B, parce que l'échange ne consiste pas en utilité contre utilité, mais en valeur contre valeur. Or, A met plus d'utilité sous la même valeur, puisque l'utilité du produit embrasse ce qui y a mis la nature et ce qui y a mis le travail, tandis que la valeur ne correspond qu'à ce qui y a mis le travail. Donc B fait un marché tout à son avantage. En acquittant au producteur de A simplement son travail, il reçoit par-dessus le marché plus d'utilité naturelle qu'il n'en donne. Posons la règle générale. Échange, c'est troc de valeur. La valeur étant réduite par la concurrence à représenter du travail, échange, c'est troc de travaux égaux. Ce que la nature a fait pour les produits échangés est donné de part et d'autre gratuitement et par-dessus le marché. D'où il suit rigoureusement que les échanges accomplis avec les pays les plus favorisés de la nature sont les plus avantageux. La théorie dont j'ai essayé dans ce chapitre de tracer les lignes et les contours demanderait de grands développements. Je ne l'ai envisagé que dans ses rapports avec mon sujet, la liberté commerciale. Mais peut-être le lecteur attentif y aura-t-il aperçu le germe fécond qui doit dans sa croissance étouffer au-dessous de lui avec la protection, le fouriérisme, le saint-simonisme, le communisme et toutes ces écoles qui ont pour objet d'exclure du gouvernement du monde la loi de la concurrence. Considérée au point de vue du producteur, la concurrence froisse sans doute souvent nos intérêts individuels et immédiats. Mais si l'on se place au point de vue du but général de tous les travaux, du bien-être universel, en un mot de la consommation, on trouvera que la concurrence joue dans le monde moral le même rôle que l'équilibre dans le monde matériel. Elle est le fondement du vrai communisme, du vrai socialisme, de cette égalité de bien-être et de conditions si désirées de nos jours. Et si tant de publicistes sincères, tant de réformateurs de bonne foi les demandent à l'arbitraire, c'est qu'ils ne comprennent pas la liberté.